De retour à l'émission, on a des choses à dire. Une présentation de Luciedel, Parizeau cabinet d'assurance, Yannick Caisse, courtier immobilier Via Capital et le magazine Contact Affaires.
Bon, un autre qui détourne les choses que je dis, moi. Je vous ai dit au début que notre ami Claude nous parlerait des combats des femmes au provincial puis au fédéral. Je trouvais que c'était génial comme sujet. Mais il vient de me dire que ce ne sera pas ça, finalement.
Mais je profite quand même de l'occasion pour lui souhaiter une bonne journée internationale.
Ouais, c'est bien mieux. T'es vu, tu vas te faire lancer des roches.
Faut être délicat, faut être délicat. Ouais.
Claude Carpentier, donc notre collaborateur de la semaine, qui, on le sait, la chose politique le titille. C'est la moindre des choses.
Oui, c'est le moins.
C'est la moindre qu'on peut dire. Et qui, de toute façon, n'a pas de campagne électorale, lui, avant longtemps.
Mais ça vient quand même assez rapidement.
Ça pourrait, oui. Ouais. Ça pourrait. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. C'est, des fois, ça arrive plus vite qu'il faut. Là, excusez, c'est parce que on fait une allusion, bien sûr, à la scène internationale et le chef fédéral libéral qui est M. Trudeau, qui a fait beaucoup jaser de lui dans les derniers temps.
Ouais, j'ai comme l'impression que vous voulez m'amener vers les Indes. Hein? Ça ressemble à ça. Écoutez, moi, en toute humilité, je vais vous avouer.
Steak de dinde patate.
En toute humilité, je vais vous avouer que on n'a pas eu les résultats escomptés avec les négociations qu'on a eues en Inde. Il y a eu la saga au niveau des costumes, puis tout ça, puis je vous dirais que j'ai trouvé ça comique, parce que j'ai eu plusieurs offres de costumes de gens qui voulaient m'en envoyer gratuitement pour participer à des activités. Il y en a qui étaient un petit peu saugrenus, mais il y en a qui étaient quand même d'une certaine élégance. Mais je vous dirais que Justin a peut-être été loin un peu à ce niveau-là.
Aide-nous, Claude, à cerner le pourquoi de ce voyage-là, parce qu'on en parlait avec Hubert Vallée la semaine dernière, et puis qu'il se perdait lui-même là à dire c'était-tu un voyage privé, c'était-tu un voyage officiel. Il n'y avait pas de délégation officielle comme telle, il n'y avait pas de contact de prix au préalable, semble-t-il, avec le chef d'État, c'est un premier ministre en Inde, si je ne m'abuse.
Ben, il y a un président et il y a un premier ministre. Mais le premier ministre, c'est lui qui a les pouvoirs. Le président, c'est plus une fonction honorifique comme le gouverneur général qu'on peut avoir ici. Fait que c'est un peu le système qu'on
ni
a.
Ni l'un ni l'autre a accueilli.
C'est un ministre, mais les ministres sont excessivement influents en Inde. Sauf qu'il y a eu quand même des gens qui se sont présentés avant que Justin Trudeau aille là-bas. Entre autres, François-Philippe Champagne, qui est allé en mission, si ma mémoire est bonne, c'est fin août, début septembre, pour ouvrir le terrain. Le but premier de la mission, c'est qu'il y avait quand même des contrats économiques qui lient le Canada avec l'Inde pour une valeur d'à peu près 6 milliards de dollars qui avaient été signés à l'époque de Stephen Harper, et qu'on devait reconduire. Et on devait profiter du fait pour aller chercher de nouvelles ententes. C'est ce qui explique qu'il y a des gens qui ont accompagné Justin Trudeau dans le cadre de la mission, des hommes d'affaires, puis je pourrais y revenir tantôt.
Parmi lesquels il y avait
Saga, avec M. Jaspal Awal, que je pourrais vous expliquer tantôt. Sauf que...
Ça a heurté des sensibilités, ça, d'amener un cycle...
Effectivement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les Indes, c'est énorme comme pays, c'est énorme comme système politique, c'est un gros marché. Il y a 1,324,000,000 de personnes en Inde. Fait que quand on arrive, nous autres, on dit le premier ministre du Canada va venir, j'image ça peut-être de façon extrapolée, là, sauf que pour eux autres, le Canada, ça représente peut-être quatre coins de rue. Mais avec le système politique qui est tellement important là-bas puis qui est tellement diversifié, les gens parlent 22 langues couramment, il y a deux langues officielles, il y a différents régimes, il y a plusieurs religions qui sont pratiquées, mais c'est faut essayer, quand on va dans ces missions-là, essayer le plus possible de ne pas vexer les gens. Au même titre qu'on l'a fait quand on est allé en Chine, il ne fallait pas parler des droits de la personne puis de la liberté des gens. parce que ça pouvait offusquer les Chinois.
Il aurait fallu qu'ils mettent dans ses costumes, il aurait fallu qu'ils prévoient une coupe de paire de gants blancs.
Oui, sauf que ça, quand il y a des missions comme ça, là, c'est la commission du protocole international du gouvernement fédéral qui va décider la façon avec laquelle les choses vont se passer. Puis, mais le premier ministre, c'est pas lui qui va décider nécessairement de la délégation. Lui, il va avoir un choix au niveau des ministres puis toutes ces choses-là. Mais il y a d'autres gens qui vont accompagner, qui étaient des gens d'affaires, comme celui qui est contesté, M. Jasper Latoile, qui avait été invité par M. Randip Sarry, qui était député de la Colombie-Britannique, puis il a admis son erreur. Mais sauf qu'au travers, là, ça, c'est tellement gros, c'est gros quand même, là, ces missions-là. Et il y a tellement d'enjeux, c'est que faut faire attention. Au niveau du protocole, il y a une multitude de choses à surveiller. Mais comme je vous disais d'entrée de jeu, je dis que Justin était peut-être un peu trop loin dans l'aspect théâtral qui aurait dû le
Mais est-ce que ça a rapporté quelque chose, finalement?
Ben, en fait, on était...
Ça a coûté cher, ça, là.
Ça a coûté cher, mais on a quand même été en mesure de reconduire les contrats pour les 6 milliards. Puis on a été chercher 250 millions de plus qui vont créer à peu près 5 800 emplois au Canada. Mais ça n'a pas donné ce qu'on escomptait en termes de résultats. Ouais. Sauf que le Canada, par rapport aux Indes, c'est un très, très petit partenaire. Ils vont faire plutôt affaire avec le Japon, avec le Pakistan. Ça va pas trop bien avec le Pakistan, mais la Chine, puis des grosses valeurs commerciales, puis ils ont gros un énorme pouvoir. Mais ce qu'il faut développer, c'est des nouvelles économies de marché qui vont intéresser les Indiens.
Notre stratégie, ce serait intéressant qu'on utilise justement notre avantage comparativement à notre voisin du Sud qui, lui, fait du protectionnisme à l'extrême.
Exactement.
Là, c'est le temps de profiter de ça, peut-être, pour combler les besoins que ces populations-là pourraient avoir, de choses que les États-Unis vont mettre des barrières ou des tarifs.
Exactement.
Mais là, M. Trump ouvre son jeu. Hein?
Ouais.
Puis là, on approche des échéances, là, il semble vouloir mettre de l'eau dans son vin, c'est le cas de le dire.
Ouais.
Et il accorderait des privilèges aux pays alliés.
Ouais.
Du Mexique et du Canada.
Il va faire encore plus de chicanes.
Il n'y a pas le choix.
Non. Puis d'autant plus là, que le dollar canadien va perdre probablement au cours des prochaines années par rapport au dollar américain. Ça va peut-être nous aider un petit peu au niveau de l'exportation. Et on va regarder ce qu'on va faire au niveau de l'acier. Sauf que, est-ce qu'on va être épargné? Ben ça, c'est un domaine qui reste à suivre. Mais il y a encore des pourparlers qui vont se faire à ce niveau-là.
Là, tu voulais nous parler d'enjeux à ce moment-là. Donc, c'était pas les enjeux de la femme, c'était pour la population en général.
Oui, absolument. Pour le bénéfice de l'ensemble des Canadiens, des Québécois, des gens de Bécancour, Nicolas de Sarrel.
Pas en campagne, là.
Non. Je suis réaliste, quand même.
Ah ouais, non, mais c'est bon de nous rappeler.
Je connais mon monde.
C'est bien de nous rappeler le nouveau nom du comté qui a changé quand même il y a nous deux élections. La dernière élection.
Ouais.
Alors, quels sont-ils ces enjeux-là qu'il faut surveiller particulièrement et.
Ben, en fait, comme je disais tantôt, c'est que on investit beaucoup pour essayer de chercher des nouveaux créneaux qui vont intéresser les pays comme l'Inde. Parce que faut être capable. Faut avoir un produit à offrir quand on va négocier avec des gens. On va renouveler des ententes, mais faut avoir des nouveaux produits à offrir. Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui faisaient partie de la délégation, qui avaient de leur côté des gens à rencontrer pour être en mesure de négocier des contrats avec eux autres. Et il y en a qui ont quand même réussi. Mais ça, c'est des choses qui restent à suivre. Il va y avoir d'autres rapports de missions qui vont être faites un petit peu plus tard. Mais comme je disais, on n'a pas eu les résultats escomptés.
Ouais, ça a été une autre chose qui était beaucoup discutée, ça, de qu'on n'a peut-être pas adressé les bons marchés, enfin, comme les nouvelles technologies. Justement, l'Inde est très fort là-dedans. Là,
ouais.
Aller plutôt de ce côté-là.
C'est ça qui est difficile, parce que quand on va dans des missions comme ça, on est tout le temps dans un jeu de négociation. Puis la politique, c'est loin d'être une science exacte. Hein? Fait qu'il faut avoir des contacts préalables, il faut discuter avec les gens, il faut discuter des bonnes choses, il faut travailler sur les bons enjeux, puis c'est un échange commercial qui doit être bénéfique autant d'une part que de l'autre. Fait qu'il faut qu'on ressorte gagnant. La seule chose où on peut se consoler, c'est qu'on n'a rien perdu. On a renouvelé des ententes et on est allé en chercher un peu. on n'a pas réussi à aller chercher ce qu'on avait comme objectif, mais on est quand même sorti gagnant en allant en chercher un peu.
Tu as mentionné qu'on parlerait aussi du provincial, du côté du provincial, qu'est-ce que tu vois comme enjeu?
Si on reste, si tu permets, Jean, au niveau du fédéral, on a parlé un petit peu, puis j'écoutais tantôt quand vous en avez parlé avec Sylvain Rochon. Je ne veux pas vous faire un coming out en vous disant que je suis devenu Bloc québécois, loin de là.
Non.
Mais ce que je trouve triste...
Ça aurait été intéressant, ça aurait compensé
ben
oui, pour le changement de sujet.
Ça aurait conduit à un autre débat. Sauf que ce que je... Moi, je suis attristé... Non, je ne suis pas mieux encore. Mais je suis
il y a
attristé...
le temps, il reste encore quoi, un an et demi, là, à peu près?
Oui, il reste encore un an et demi, là. Mais je suis attristé à ce qui se passe au niveau du Bloc québécois. Ben, dans le sens que le Bloc québécois, c'était... construit là, depuis 1993 par des gens qui ont travaillé d'arrache-pied pour construire. Ça a pris naissance au restaurant Tracy. Et je vous dirais, moi, que... puis j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Louis Plamondon, d'ailleurs, cette semaine. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'un parti prenne fin de cette façon-là quand il aurait dû prendre fin avec un vote populaire et une décision de la population. Mais si le Bloc québécois est rendu là aujourd'hui, c'est malheureusement grâce ou malheureusement à cause de l'attitude d'une seule personne. Et ça, ça m'attriste beaucoup. Et moi, je disais à Louis Plamondon, on a communiqué ensemble cette semaine, puis je disais à Louis, ben, on l'a trouvé, c'est certain que la situation l'attriste. Puis moi, ce que je lui ai dit, Louis, si tu veux revenir en 2019, j'aimerais mieux que tu reviennes comme indépendant en santé que de revenir comme bloquiste malade. Et
c'est sûr que ça l'affecte beaucoup. On l'a reçu, Louis, et puis il était très, émotionnellement très atteint par ça. C'est normal, c'est son bébé.
Pour faire de la politique, puis moi, vous savez, j'ai jamais été méchant envers qui que ce soit au niveau personnel, au niveau de la politique. J'ai toujours été respectueux. Et moi, ça m'a attristé beaucoup. Et puis, mais je pense que c'est une saga qui va tirer à sa fin parce qu'on peut pas attendre 14 mois avant d'avoir des résultats de ce qui va se passer. Et il y a d'ailleurs une élection partielle au Fjord, Chicoutimi, le Fjord, avec le départ de M. Lemieux qui a donné sa démission, et la circonscription de comté de Chicoutimi-le-Fjord ont refusé de présenter un candidat du Bloc québécois tant aussi longtemps que Martine Ouellet resterait chef du parti.
Alors, il y a une grande division hein, au parti même. Là. On le voit, la base est consultée, puis c'est presque moitié-moitié. Les gens veulent dépendre de Mme Ouellet ou non.
C'est dur à calculer, justement, parce que c'est on parle toujours du vote populaire des membres du Bloc, mais en même temps, je lisais là, justement le communiqué de M. Duval ce matin là, qui parlait de ses 10 membres dans son comté qui, eux, appuient Mme Ouellet sans condition. Mais justement, là, d'un comté à l'autre, c'est combien dans les faits là, qui sont vraiment attachés à leur chef à ce point-là?
Je ne suis pas au courant de leur constitution, mais semble-t-il que ça prendrait 25 comtés pour être capable de faire un vote pour renverser Mme Ouellet, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à se rendre jusque-là.
Elle est déjà à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'on ne s'entend pas sur son travail?
Oui, mais ça, c'est... Je ne m'occuperai pas des problèmes du Bloc, qu'on fait juste en discuter comme ça. Ouais. Sauf que Mme Ouellet, s'acharne, mais je pense que les 7 députés élus ont beaucoup plus de chances de rallier les gens envers leur cause à eux que Martine Ouellet a de chances de rallier les gens vers elle.
Ça devient un conflit personnel, de personnalité, finalement. Parce
exactement.
Ils l'ont dit, c'est parce qu'ils sont pas capables de travailler avec elle. C'est sûrement pas l'idée qu'elle met de l'avant. C'est le but premier du Bloc québécois, de l'existence du Bloc québécois.
Certains pensent que le groupe des 7 pourrait former un nouveau parti. Est-ce que c'est réaliste?
Je ne penserais pas que ces gens-là aillent jusque-là. Puis je ne penserais pas que... Ils réussissent de cette façon-là à rehausser le Bloc. C'est plus profond que ça. Le problème est plus profond. Parce que de repartir sur un autre nom, ça va-tu changer quelque chose dans les orientations? Et avant que Mme Ouellet arrive au Bloc, ben, les gens avaient déjà une idée sur l'utilité du Bloc. Là. Ils ont réussi à aller en archer quand même 10 grâce à la participation de M. Duceppe là, à la dernière campagne de 2015. Mais est-ce que, suite au départ de M. Duceppe et avec les agissements de Mme Ouellette, qu'on va réussir à refaire un bloc fort? J'en doute là, énormément.
Là, on a, finalement, il reste que 2 minutes pour revenir sur ce que tu voulais dire à propos des enjeux du côté provincial.
Bon, les enjeux au niveau provincial...
Ça s'en vient vite. Là. Ça, c'est pour l'automne prochain.
On est dans le jus actuellement. Et je pense que autant les Indes est importante au niveau fédéral cette semaine, autant la santé peut l'être. Mm. Et on s'attarde beaucoup au salaire des médecins. Et moi, ce que j'en viens, je le sais que le salaire des médecins par rapport à la population, c'est une problématique là, qui... On n'est pas confortable avec ça.
Bon, ce qu'on n'est pas confortable, c'est pas que les médecins soient payés plus cher que le reste de la population. C'est que là, récemment, il y a eu des augmentations qui ont été accordées sans même l'assentiment global des médecins. Les médecins généralistes, les omnipraticiens, en veulent même pas de cette augmentation. Ils disent qu'ils en veulent même pas, ou en tout cas pas de cette façon-là. La même chose pour une bonne majorité des spécialistes aussi. Ça a été... C'est bizarre comment ça a été apporté, ça. Là.
Ça m'indique là, qu'il y a peut-être une faiblesse au niveau de les associations, parce que ce sont quand même des conditions de travail qui ont été négociées. Mais où j'en ai...
Oui, c'était dû, ça.
Où j'en ai, par contre, c'est que c'est pas le salaire, nécessairement le salaire des médecins qui va être la cause du dérapage que nous avons au niveau du système de santé. Par contre, moi, ce que je ferais au niveau des médecins, au niveau du Québec, les médecins ont le défaut d'être des travailleurs autonomes. En réalité, ce sont des travailleurs d'État. Et ce sont les médecins, avec leurs establishments et les pouvoirs qu'ils ont en tant que travailleurs autonomes, qui vont, d'une certaine façon, décider leurs horaires de travail. Moi, j'ai un rendez-vous prochainement avec un spécialiste, et j'attends ses disponibilités pour avoir un rendez-vous. Alors que si c'était fait au même titre que le centre hospitalier va céduler ses infirmières, il y a déjà longtemps que j'aurais eu mon rendez-vous. Mm-hmm. Fait qu'un médecin, à toute fin pratique, à mon lit, dans mon livre à moi, c'est un travailleur d'État qui est malheureusement, il est considéré comme un travailleur autonome. Alors, si on part de cette base-là, on pourrait régler une bonne partie du problème, hormis le salaire. Mais ben, ça ferait...
Je ne veux pas revenir sur la question du salaire, mais juste préciser que ce que de l'avis, c'est pas moi qui le dis, mais de l'avis des médecins, justement, qui refusaient ces sommes-là, c'est, selon eux, puis la population est d'accord avec eux, c'est des sommes qui auraient pu quand même être réinjectées dans le système pour améliorer des choses, quand
même.
Avoir plus d'infirmières qui sont en train de s'épuiser, etc. Là.
Et tout le monde est d'accord là-dessus.
Exactement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Puis cet argent-là aurait pu être utilisé là, à meilleur escient. On a eu une bonne nouvelle pour la réfection de l'hôpital Hôtel-Dieu. Ouais. Je pense que c'est 24 millions qui vont être injectés pour... C'est une bonne nouvelle. Mais le système de santé au Québec, ça a toujours été la hantise de tous les gouvernements qui sont passés au pouvoir, là, depuis la création du système de santé. Et ça l'accapare là, pratiquement 50 % du budget de la province. Fait que c'est quand même énorme, mais il y a beaucoup d'amélioration à faire encore. Puis ce que je vois, c'est qu'il y en a qui veulent en rajouter, dans le sens que on a des promesses électorales qui viennent de d'autres partis où on veut donner l'accessibilité aux soins dentaires, à rajouter à l'assurance maladie et aux soins de la vue. Fait que ça va coûter encore plus cher.
Ah, c'est certain qu'il faut, faut assumer que quand on demande de
plus on demande, plus ça coûte cher.
Ben exactement.
Et quand il vient le temps de dire où on peut couper, il n'y a pas personne qui lève la main pour proposer des choses. Hein. C'est de bonne guerre.
Merci Claude de nous avoir éclairé comme ça sur les besoins de la femme, c'est-à-dire pour les besoins de la population en général.
Ben sans nécessairement avoir acheté une grosse lumière, peut-être un petit éclairage.
Oui, d'accord, merci. Ben,
merci beaucoup pour votre invitation.
Claude Carpentier, d'ailleurs, on souhaite que tu sois de retour dans les 8 prochaines semaines, quelque chose comme ça, environ, 7-8 prochaines semaines. Malheureusement, ce que je suis obligé de vous annoncer aujourd'hui, c'est que notre ami Pierre, lui, ne sera pas de retour ni dans 8 semaines, ni dans 5 semaines, ni la semaine prochaine, parce qu'il nous quitte aujourd'hui. Pierre, je voudrais simplement, au nom de toute l'équipe ici, puis je pense notre groupe de collaborateurs, la même chose, te dire un immense merci d'avoir accepté le défi. C'était pas évident au début, je pense, de faire la transition de l'écrit au parler, mais tu as fait un travail extraordinaire. Tu étais une ressource qui était absolument essentiel au bon fonctionnement de l'émission. Bien des reprises, j'ai dû d'ailleurs mettre complètement sur ton épaule la préparation de certaines de nos émissions aussi. Tu as fait un travail formidable. Je m'ennuyais de toi bien gros. je sais que t'as vraiment pas le choix de prendre la décision que tu prends là.
Non, c'est un regret.
Je t'appuie à 100% dans cette démarche-là. T'es pas obligé de l'expliquer non plus.
Je suis pas malade.
C'est personnel, t'es pas malade.
Ma santé est bonne. Voilà. Cependant, il y a des gens dans mon entourage qui ont besoin de ma présence. C'est une question d'humanité, une question familiale. Et puis, je pense que le choix est pour l'instant facile à faire, même si je suis vraiment désolé de quitter. J'aimais vraiment notre petit rendez-vous de jeudi et tout ce que ça impliquait. Bref, merci Jean. Je sais que c'est à cause de toi et à cause de Laurent que j'ai pu naviguer dans les eaux de l'information régionale. C'est fascinant.
Puis qui sait ton rêve que tu caressais, que je ne sais pas si tu caresses toujours, de prendre le micro pour autre chose que l'information, pourra peut-être prendre vie un jour.
Pourquoi
quand tout ça sera derrière toi.
Ouais, pourquoi pas.
Pourquoi pas, hein? On s'en reparle.
Merci Jean.
Ben, gars, je partage ce que tu viens de dire. Puis, merci beaucoup, Pierre, pour tout ce que tu as fait, les années que tu as passées ici. Et la meilleure des chances dans ce qui t'attend.
Merci.
Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous d'avoir été là. Merci à nos invités. Nos invités. On va remercier Sylvain Rochon, finalement. Puis, on va se reprendre avec Mme Bourgeois. Malheureux malentendu, semble-t-il, qui a fait en sorte qu'on a manqué le rendez-vous téléphonique. Elle avait d'autres occupations qui pressaient.
Mais je la remercie de m'avoir donné de son temps.
On se retrouve la semaine prochaine, mesdames, messieurs. Je vous retrouve la semaine prochaine pour On a des choses à dire. Bonne semaine, tout le monde.
Bye. Au revoir.